Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Heure passée de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Ce n'est pas la première fois que je le reçois devant notre micro. Écrivain, journaliste, un beau parcours. Bernard Lecomte, bonjour.
Bonjour Yannick.
Alors Bernard, qu'est-ce que je dois rappeler l'essentiel de vous ?
Que j'ai quelques années de journalisme, que je me suis intéressé dans ma vie à deux endroits particuliers qui sont le Kremlin et le Vatican, et que parce que justement j'ai beaucoup fréquenté le Vatican, un grand éditeur de BD, Jacques Glénat, on va en parler, m'a proposé de piloter une collection très très originale qui s'appelle « Un pape dans l'histoire ». Donc vous voyez la continuité, j'ai passé ma vie de journaliste et de grand reporter, notamment dans les couloirs du Vatican, et aujourd'hui eh bien, je pilote cette collection de BD qui porte justement sur les grands papes du Vatican.
Vous avez écrit une trentaine de livres, on soulignera tout de même une remarquable biographie de Jean-Paul II parue chez Gallimard et qui fait date.
Oui, et qui reste en vente, hein. Aujourd'hui elle est en poche, en folio. Et c'est une de mes grandes fiertés, en effet. C'est un livre que je ne regrette pas, celui-là, incontestablement.
Une biographie aussi sur Mikhaïl Gorbatchev. On en avait parlé dans Wagon Livre. Un dictionnaire amoureux des papes aux éditions Plomb, toujours en vente. Ça, ce sont toutes des petites idées cadeaux qu'on glisse comme ça au passage. Tout récemment, aux éditions Perrin, alors c'est une compilation intitulée « Tous les secrets du Vatican ».
Oui, c'est mon éditeur qui m'a fait un cadeau de Noël, là. Il a repris tous les secrets du Vatican, c'est-à-dire, en fait, toutes les enquêtes historiques que j'ai faites sur le Vatican depuis 10-12 ans. J'en suis à ma 33e enquête publiée. Sur quel sujet ? Les grands sujets, le secret de Fatima, le sphère de Turin, les silences de Pie XII, l'Opus Dei, la franc-maçonnerie, etc.
La fameuse sœur Pascalina.
La fameuse sœur Pascalina qui a accompagné Pie XII pendant toute sa vie. Mon éditeur m'a dit simplement qu'il fallait un nouveau chapitre pour que ce livre ne soit pas qu'une compilation. Et donc, il m'a suggéré ce que j'ai fait. J'ai mis presque 3 mois à faire ça. De répondre à la question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, c'est-à-dire au fond, mais pourquoi les derniers papes, je pense à Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François bien sûr, pourquoi ces papes-là, contrairement à tous les autres, se sont empêtrés dans les affaires sexuelles ? Comment ça se fait que cette Église qui n'avait jamais mis au premier rang les affaires sexuelles, qui repose sur un évangile où, quand vous l'ouvrez, vous voyez que Jésus n'a quasiment jamais parlé de sexe. Et pourquoi, depuis quelques années, les affaires de sexe ont pris une telle importance dans l'Église, dans la gestion de l'Église, dans la morale de l'Église ? Voilà le sujet de mon 34e chapitre de ces secrets du Vatican.
Voilà, j'espère que les auditrices et auditeurs ont noté les références des livres dont il est question. Ils les retrouvent d'ailleurs sur le site www.yannickpetit.fr. Et puis, Bernard Lecomte, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mettre en valeur donc les 4 bandes dessinées parues aux éditions Glénat et éditions du Cerf. Dans cette collection « Un pape dans l'histoire », donc vous me les avez très gentiment fait parvenir. Alors, il y a Saint-Pierre, une menace pour l'Empire romain. On a Léon le Grand, défié Attila, Alexandre VI, le règne des Borgia, et incontournable, Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Donc Bernard, vous avez été le conseiller historique par rapport à la construction et l'organisation de cette série de bandes dessinées. Quel est le rôle du conseiller historique? Vous dites aux dessinateurs, attention, il faut veiller à représenter Saint-Pierre avec les yeux bleus. C'est pas si précis que cela?
Ça pourrait m'arriver si j'étais certain que Saint-Pierre avait les yeux bleus, ce qui n'est pas le cas. Non, plus sérieusement, mon rôle, il est triple au fond. D'abord, comme j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là, Jacques Glénat comptait sur moi pour dire déjà de quel pape on va parler, quel pape on va choisir dans cette aventure, un pape dans l'histoire. Il fallait en sélectionner 30. Or, vous savez, cher Yannick, qu'il y a 266 papes dans l'histoire. Donc, il fallait en éliminer 236. Donc là, évidemment, mon rôle est là en disant, voilà, tel pape se prête évidemment au concept de ses albums, tel pape pas du tout. Il faut bien dire d'ailleurs que sur les 266 papes de l'histoire, honnêtement, il y en a 200 qui n'ont aucun intérêt. C'était des vieux messieurs qui sont arrivés en fin de course, qui sont restés quelques mois, quelques années, dans des époques qui n'étaient pas significatives. Donc ceux-là, on peut franchement les oublier. Donc, quels étaient les 30 noms à retenir dans l'aventure? Deuxième chose, moi, j'indiquais un petit peu dans un synopsis à chaque fois, j'indique en quoi ces papes sont intéressants, qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans leur biographie ou dans leur époque, ce qui va justement susciter l'intérêt d'un scénariste et d'un dessinateur. Ça, je connais un peu, donc je fais ce synopsis. Et puis, troisièmement, mon rôle, c'est aussi pour justement laisser la liberté aux scénaristes, aux dessinateurs, de faire ce qu'ils veulent faire. Moi, à la fin de chaque album, je fais un cahier documentaire qui permet un petit peu de remettre tout ça d'équerre, de dire, voilà, la réalité historique, c'était ça, la tradition de l'Église, c'était ça, en laissant donc les dessinateurs libres de leur talent, de leur fantaisie, du moment, bien sûr, qu'ils restent un peu dans les clous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus d'un seul coup inventer un pape qui fait des trucs invraisemblables. Non, il faut rester dans l'histoire. Ce sont des BD historiques. Donc c'est exactement comme si on faisait les rois de France ou les empereurs germaniques. C'est d'ailleurs un petit peu inspiré de cette collection des grands personnages de l'Antiquité, vous savez, qu'a animé justement le philosophe Luc Ferry, chez Glénat aussi, dans la même forme. Et donc là, il s'agit de dire, voilà, il ne s'agit pas du tout de faire des chronologies de papes. J'insiste là-dessus tout de suite, parce que pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Ce n'est pas une série de BD religieuses faites pour le catéchisme, ce n'est pas du tout ça. Le jeu consiste à prendre des moments de l'histoire qu'ont incarné ces personnages un peu mystérieux, un peu méconnus, un peu oubliés, que sont les grands papes. Je vous donne quelques exemples. Si je vous dis à vous, cher Yannick, pourtant je sais votre culture abyssale, et pourtant, si je vous dis Pie VII, vous allez me dire, oh là là, Pie VII, c'est lequel? Il y a eu Pie VI, puis Pie VII, Pie VIII, puis on sait que Pie XI, on connaît, Pie XII aussi. Pie VII, c'est Napoléon. C'est le pape qui s'est coltiné Napoléon pendant tout le règne de Napoléon. Si je vous dis Urbain II, vous allez me dire, oh là là, Urbain II, attendez, pas de panique. Urbain II, c'est le pape des croisades. Si je vous dis Clément V, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce Clément V que j'ai complètement oublié? Clément V, c'est le premier pape d'Avignon, donc c'est l'époque où les papes, au début du XIVe siècle, sont venus à Avignon. Tous ceux qui nous écoutent sont allés un jour dans leur vie à Avignon, ils ont tous vu le palais des papes là-bas. Eh bien, c'était Clément V. Et Clément V, c'est aussi celui qui a condamné les Templiers. Alors là, vous allez me dire, ah oui, les Templiers, je me souviens bien. Vous voyez, chaque pape incarne un grand moment de l'histoire, y compris les quatre que vous avez sous les yeux.
Et effectivement, en parcourant les bandes dessinées, en les lisant, en observant les dessins, on se rend compte en fait que les papes ont un rôle diplomatique, politique, voire parfois militaire. Enfin, parfois, ils sont aussi puissants qu'un grand chef d'armée face à un envahisseur. C'est le cas de Léon le Grand, par exemple. Moi, j'avais un peu oublié qu'il était allé au-devant de la horde des Huns de Attila et qu'il s'est érigé comme le rempart contre cet envahisseur qui voulait mettre Rome à sac.
Voilà, il faut jamais oublier que l'histoire de la papauté, c'est 2000 ans d'histoire. Ça commence évidemment avec Saint-Pierre, bon, on le sait bien, mais après, il va y avoir des époques extrêmement différentes. Et vous avez complètement raison, certains papes ont été des grands théologiens, d'autres des grands spirituels, mais d'autres papes ont été des politiques, des stratèges, des diplomates, hommes des hommes d'État. Et vous avez raison, certains ont même été chefs de guerre. Il y a certains papes qui sont montés à cheval, l'arme à la main, avec un casque. On retrouve ça parfois dans certaines peintures. Et parce que tout simplement, les papes ont été plus ou moins... pendant 1000 ans, ils ont été à la tête de territoires. Ça s'appelait les États pontificaux. Les États pontificaux, c'était pas aussi important que l'Empire romain germanique ou que le Royaume de France ou que le Royaume d'Espagne, mais c'était quand même des territoires que, le pape devait garder, et le pape s'occupait aussi du bonheur de ses administrés. C'était comme ça. Le pape était aussi chef politique que spirituel. Vous parlez de Léon le Grand. Là, je vous suis complètement. Moi-même, honnêtement, quand j'ai recommencé à travailler sur cette histoire, je me dis, attendez, Léon Ier, Léon le Grand, c'est lequel ? Bon, Léon le Grand, c'est le pape qui incarne, comme tous mes autres papes, un tournant de l'histoire. Ce tournant de l'histoire, c'est la chute de l'Empire romain, la fin de l'Empire romain. Et c'est évidemment le même sujet, les invasions barbares. L'Empire romain, il a presque 10 siècles d'âge, et c'est au 5e siècle qu'il s'effondre définitivement parce qu'il est trop grand, parce qu'il n'arrive plus à défendre ses frontières, que sais-je. Et pendant cette période extrêmement cruciale, parce que les barbares sont là, il y a les Huns, mais il y a aussi les Vandales, il y a aussi les Ostrogoths, les Visigoths, etc. C'est crucial pour toute ce continent européen et cette Méditerranée. Et il y a un homme là qui s'avère être vraiment le type le plus charismatique de l'époque, c'est l'évêque de Rome, c'est donc le pape de Rome, qui s'appelle Léon, qui est un type effectivement exceptionnel, et c'est Léon qui va, au fond, rassurer un peu toutes ces populations, pas seulement les populations, il rassure même les empereurs romains. L'empereur romain de l'époque, qui est un jeune type à peu près incompétent, qui s'appelle Valentinien III.
Un culte aussi.
Oui, on sent bien que c'est la fin d'un monde. Hein. Eh bien, c'est lui avec ses conseillers qui va se dire, mais contre Léon, peut-être qu'on peut demander au pape d'intervenir, parce que ce pape, Léon, est formidable, et lui aura peut-être des arguments que nous n'avons pas. Donc vous voyez que à chaque pape, c'est une époque, c'est un tournant de l'histoire qui nous concerne. Parce qu'évidemment, vous imaginez bien qu'on a quand même choisi tous ces papes en fonction de cette histoire de l'Occident qui est aussi la nôtre. N'oublions pas que les uns dont nous parlons, les Huns et Attila, avant de venir menacer Rome, étaient quand même en Champagne et menaçaient la Gaule et les Francs. Vous vous rappelez, on a tous appris dans nos manuels scolaires les champs cataloniques. Vous vous rappelez la bataille des champs cataloniques. C'est la bataille où, effectivement, Attila a reculé devant les Francs et les Gaulois qui étaient là, c'était nous. Et donc, il a eu une défaite, et du coup, il a remonté les Alpes, comme ça, il est descendu jusqu'à l'Italie, jusqu'à menacer Rome. Et c'est à ce moment-là que l'Empire romain lui-même est menacé et qu'intervient notre pape Léon.
Alors, ce qui est remarquable, c'est de voir le pape reçu dans la grande hutte de Attila et discuter, tandis que autour il y a quelques spectacles de guerriers des Huns qui se battent comme ça à l'épée et le pape très très serein qui discute face à un Attila un peu vautré, étendu, mangeant, buvant. C'est assez drôle dans la bande dessinée.
Je vois que vous avez été sensible au talent du dessinateur qui sur ce sujet-là a été absolument génial. C'est un jeune Italien qui s'appelle Stefano Carloni et qui a trouvé dans cette histoire de quoi, comment dirais-je, un lyrisme extraordinaire. C'est là aussi le talent des dessinateurs de BD. Moi, je ne connais pas ce monde de la BD que je découvre quelque part. Mais je vois que dans la BD, il y a des dessinateurs pour ceci, d'autres pour cela. Celui-là, Stefano Carloni, il est formidable pour décrire l'invasion des Huns, les massacres, les sabres, la cavalcade des cavaliers Huns qui vont investir une ville, qui vont faire des horreurs. Là, il est fortiche. Et il faut reconnaître que quand on feuillette la bande dessinée, c'est d'abord à ça qu'on s'arrête. Et notamment les jeunes qui feuillettent une bande dessinée comme ça, ils sont séduits, comme vous, par le dessin qui est d'une vivacité incroyable, qui fait froid dans le dos. C'est ça l'intérêt de la bande dessinée. C'est ça qu'on n'arrive pas, nous, les écrivains, les essayistes, les historiens, on n'arrive pas forcément à traduire ça dans nos livres. Et la BD, ça sert à ça. ça sert à émouvoir, rien qu'à décrire une horde de Huns qui envahit une ville italienne.
Mais c'est vraisemblablement délicat, je pense, pour les dessinateurs de mettre des éléments culturels. Est-ce que là, Bernard, vous avez un regard aussi critique? Est-ce qu'il vous est arrivé de dire « Ah, ça me semble erroné » Sur des représentations symboliques, par exemple, du pouvoir romain, des monuments de cette Rome antique. Est-ce que parfois, vous avez été contraint de dire oh, « ça ne me semble pas judicieux, il faudrait revoir... » Oui, non ?
Parfois, il me pose la question. Mais soyons clairs, je n'ai pas toutes les réponses. Moi, je ne suis pas un érudit, je ne suis pas l'encyclopédie Larousse. Donc, nous avons quelques conseillers ici ou là, aux éditions Glénat, aux éditions du Cerf et autour de nous, qui peuvent nous répondre sur des sujets très pointus. Vous savez, comment voulez-vous que je sache, moi, quelles étaient les coiffures des gouverneurs romains, que sais-je ?
Ou des femmes.
Voilà,
ou
des femmes.
Des femmes.
Donc là, c'est le travail des dessinateurs et des spécialistes. Un dessinateur de BD, quand il se lance dans une entreprise comme ça, il va lui-même chercher sur Internet des tas de trucs, il va visiter des musées. C'est un vrai métier. Hein. Ça consiste pas seulement à tenir la plume, mine de rien, et à dessiner des personnages. De même, le scénariste, puisque à chacun de ses albums, c'est un scénariste différent et un dessinateur différent. Bon, ben, le scénariste, il va plonger dans des vieux livres pour savoir qui était Léon Ier, qui était Léon, qui était Attila. C'est un très gros travail de documentation. Alors, vous me posez la question. Moi, je peux intervenir parfois, si vous voulez, sur l'histoire des papes que je connais, alors que la grande histoire, pardon, mais je ne suis pas historien, moi, je suis un esprit curieux, mais je suis intervenu, par exemple, ça va vous faire sourire, mais sur l'album racontant Saint-Pierre, le scénariste était parti pour raconter justement la crucifixion de Saint-Pierre, bon, très bien, à Rome, on va y revenir dans un instant, mais et Saint-Pierre qui revoyait son passé, etc. Et là, je suis intervenu en disant, attention, là, je suis obligé d'intervenir parce que la tradition de l'Église, c'est comme ça depuis le 3e siècle, donc on ne peut pas la changer, c'est que Saint-Pierre a été crucifié la tête en bas. Saint-Pierre avait dit à ses bourreaux, je ne suis pas digne d'être crucifié comme Jésus, donc je vous demande d'être crucifié la tête en bas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Vous savez bien qu'à cette époque lointaine, il n'y avait pas beaucoup d'archives, il n'y avait pas beaucoup d'écrits qui restaient. Et puis, les chrétiens de l'époque n'avaient absolument pas intérêt non plus à trop raconter leurs histoires parce qu'ils étaient quand même persécutés. Donc, au fond, on n'en sait rien. Mais la tradition de l'Église est comme ça depuis 17 siècles. Donc, j'ai dit aux dessinateurs, on ne peut pas crucifier Saint-Pierre la tête en haut comme le Christ. C'est pas possible. La tradition, c'est qu'il est crucifié la tête en bas. Le dessinateur, le scénariste intègre ma remarque et vont d'ailleurs justement tourner la difficulté et intégrer cette crucifixion la tête en bas dans le scénario de la mort de Saint-Pierre.
Mais dans la bande dessinée concernant effectivement la crucifixion de Saint-Pierre, on a le sentiment que ce sont les soldats romains qui décident pour l'humilier de mettre sa croix à l'envers.
Alors non, c'est pas pour l'humilier, pardon, c'est Saint-Pierre qui demande lui-même cette faveur d'être crucifié la tête en bas. Et l'histoire, alors là, c'est une histoire évidemment inventée, mais elle est parfaitement plausible. C'est ça le talent d'un scénariste. L'histoire est plausible. Saint-Pierre, donc nous sommes à Rome, juste après l'incendie de Rome, vous vous rappelez, Néron accuse les chrétiens et décide de mettre à mort leur chef, hein, qui est le chef de la bande à l'époque, c'est le chef de la communauté chrétienne, qui est d'ailleurs persécuté, donc qui ne fait pas beaucoup de publicité, et le malheureux Pierre, qui était l'ancien principal disciple de Jésus en Palestine. Ce Pierre-là, il est crucifié. Les gens qui vont mettre à mort Pierre dans le cirque qui est au Vatican, ça s'appelle déjà la colline du Vatican, les gens qui vont mettre à mort obéissent à un centurion, parce que dans l'armée romaine, c'est comme ça que ça se passe. Et le centurion, quand il voit Pierre, a d'un seul coup une vision, il revoit celui qui a sauvé son fils quand il était lui-même en garnison en Palestine. Alors, encore une fois, c'est inventé, bien sûr, mais c'est complètement plausible. Et ce centurion, en effet, va avoir une conversation. Alors, je ne veux pas déflorer toute l'histoire de la BD, mais ce centurion va effectivement accéder au souhait de Pierre parce que au fond, il lui doit quelque chose. Il va pas le libérer, il faut pas non plus rêver. Le centurion, il est pas fou, il est pas suicidaire. Mais voilà, il va avoir ce geste. Voilà, vous voyez comment, à partir du récit qui est dans la tradition de l'Église depuis des siècles et des siècles, un scénariste malin et cultivé peut tout à fait transformer les choses, les mettre en perspective et inventer une histoire qui devient à son tour un scénario.
C'est Bernard Lecomte qui nous accompagne en cette fin de matinée sur Radion à bord de Wagon Livre pour 4 bandes dessinées, des bonnes idées cadeaux, là, à mon avis, à glisser sous le sapin. Pour le jeune public comme pour les adultes, Bernard. Parce que le grand intérêt, c'est que c'est tout à fait intéressant pour des jeunes et même pour des adultes qui veulent un peu parfaire leur culture.
Hein. Oui, c'est assez frappant de voir aujourd'hui que la BD est entrée complètement dans le domaine adulte. Enfin, j'ai fait déjà quelques salons du livre, quelques dédicaces avec mes amis dessinateurs ou tout seul. Et j'ai eu déjà l'occasion de mesurer un peu ça. D'abord, il y a effectivement beaucoup d'adultes aujourd'hui qui sont passionnés par les BD, mais j'ajoute, qui ne lisent que ça ? Ce qui nous fait réfléchir, nous les écrivains, les amoureux du livre, etc. Parce que je vois bien, je m'en doutais un peu, mais je vois concrètement aujourd'hui à quel point on atteint avec des livres historiques, parce que, encore une fois, ces albums-là, c'est l'histoire de l'Occident à travers ces personnages que sont les papes. Et on atteint des gens qui jamais ne liront un livre sur ce sujet-là. Le gars qui vient, qui feuillette Léon le Grand, dont on vient de parler, qui regarde, qui voit le dessin, les massacres, les trucs, les machins, la négociation entre le pape et Attila, il est intéressé par ça. Mais je vous garantis que jamais de sa vie, il ne lira un livre sur Léon, sur Attila ou sur les invasions barbares. Pareil pour Saint-Pierre, c'est même peut-être plus spectaculaire en plus que pour Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre, c'est quand même le fondement de notre culture judéo-chrétienne. Bon, on sait bien quand même, ça démarre avec la mort de Jésus, et Saint-Pierre est là, le chef des apôtres. Or, je constate que des gens vont se passionner pour Saint-Pierre, feuilleter la BD, poser des questions, repartir avec l'album, vont discuter avec leurs enfants aussi. Parce que l'intérêt aussi de ces BD historiques, c'est qu'elles sont un moyen aussi, entre les parents et les enfants, d'échanger sur des choses un petit peu connues. Alors le gamin, lui, c'est d'abord le trait, les couleurs, les formes qui l'intéressent. Les parents, eux, ont un petit peu la culture. Mais tout ça se fait avec des gens qui jamais ne liront un livre sur Saint-Pierre. Jamais de leur vie, c'est même inimaginable. Jamais l'idée ne leur viendrait d'acheter un bouquin normal sur Pierre, le chef des apôtres. Or là, ces albums-là leur permettent en effet de découvrir des choses, de se cultiver sur des choses fondamentales, bien sûr, mais à travers ce huitième art, comme on l'appelle, qui est la bande dessinée.
Et je rappelle donc 4 bandes dessinées. Saint-Pierre, une menace pour l'Empire romain. Léon le Grand, défié Attila. Alexandre VI, le règne des Borgia. Et Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Bernard Lecomte est notre invité. On marque une première pause musicale et on se retrouve dans une poignée de minutes.
Keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. heaven, now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory.
Retrouvons notre invité Bernard Lecomte, qui a été le conseiller historique pour cette série de bandes dessinées dans le cadre donc Un pape dans l'histoire. Quatre bandes dessinées, une consacrée à Saint-Pierre, Léon le Grand, le pape Léon le Grand, il faut dire Saint-Léon d'ailleurs.
Ah, les catholiques disent Saint-Léon le Grand parce qu'il a effectivement été canonisé.
Bon, Alexandre VI n'a pas été canonisé, mais là aussi, c'est un sacré personnage.
Oui, ça, je crois qu'il ne le sera jamais. Hein.
Ça sera difficile. Non, ça sera difficile. Et puis Jean-Paul II, qui est lui aussi désormais saint.
Alors lui aussi, normalement, les catholiques l'appellent Saint Jean-Paul II.
Alors Saint-Pierre, Bernard Lecomte, pourquoi Saint-Pierre a-t-il été une menace pour l'Empire romain sous titre de la bande dessinée? Pourquoi une menace?
Une menace parce que ce qui a fait la grandeur de l'Empire romain, c'est pour ça qu'on en parle encore tous les jours, c'est pour ça que c'est vraiment le fondement de notre histoire. Ce qui a fait la grandeur de l'Empire romain, c'était son unité. Si l'Empire romain a eu une telle force, une telle autorité, s'il s'est maintenu pendant tant de siècles, c'est parce que autour de ses empereurs, enfin, il y a eu la République, il y a eu l'Empire, il y a eu plusieurs périodes hein, pendant l'Empire romain. Mais autour de ses chefs, autour de ses grands personnages, dont on garde encore certains l'image, Jules César, c'est Jules César. Il n'y a pas un Français qui ne sache pas qui est Jules César. Ces types-là étaient d'abord préoccupés par l'unité de l'Empire. C'est pour ça qu'on parle d'une culture gallo-romaine, par exemple, pour ceux qui nous concernent. Parce que de Rome, qui était la capitale de l'Empire, jusqu'à toute la Gaule, de Arles, puis Lyon, puis Auxerre, Sens, enfin nous en Bourgogne, on sait bien que les Romains sont remontés jusqu'à Trèves, Mayence, en Allemagne, au nord. Tous ces territoires étaient gouvernés de la même façon. Tous ces territoires obéissaient à une logique à la fois administrative et militaire. Et c'est ça qui va s'effondrer, justement, au 5e siècle, à l'époque de Léon. Mais cette unité de l'Empire, qu'est-ce qui peut la menacer? Des envahisseurs extérieurs, ça sera le cas plus tard, et puis des dissidents à l'intérieur. Et les chrétiens vont être des dissidents de l'intérieur. Déjà en Palestine, naturellement, c'est bien que la Palestine est occupée par les Romains, sinon il n'y aurait pas toute l'histoire du Christ, sa crucifixion, etc. Et Rome, qui pilote un peu tout ça, mais qui voit arriver, après la mort du Christ, qui voit arriver les premiers chrétiens, qui sont d'ailleurs, à l'époque, qui sont d'ailleurs des juifs à ce moment-là. Ce sont des marchands juifs qui viennent dire, chez nous, en Palestine, il y a un gars qui s'appelait Jésus, qui a été crucifié, qui est ressuscité, etc. Ces premiers chrétiens de Rome venaient de là-bas. Sauf que ces gens-là n'obéissaient pas aux lois de l'Empire. D'abord, ils n'adoraient pas les dieux romains, ce qui était quand même très important. On sait bien que dans l'histoire de la Gaule, chez nous, même en Bourgogne, qu'est-ce qui s'est passé quelques siècles après, quand Saint-Martin convertit la Bourgogne, il commence par mettre à bas les dieux romains. Et donc, c'est ça la menace pour l'Empire romain. C'est que des gens qui ont d'autres, qui ont un autre Dieu, qui ont d'autres convictions, qui croient en un autre avenir, en un paradis différent, que ces gens-là menacent l'unité de l'Empire. Et c'est pour ça que Pierre est en effet un ennemi de l'Empire, parce que ce chef de cette communauté-là, quand on veut faire un peu le ménage, on le met à mort, et c'est ce que Néron, en effet, fait en 64 après Jésus-Christ.
Donc Néron fait incendier Rome pour trouver un prétexte en accusant les chrétiens, les membres de cette secte, comme on les appelle à l'époque, pour accuser les chrétiens d'avoir mis feu à Rome. Est-ce que Néron jouait vraiment de la lyre en contemplant l'incendie de Rome, comme Hitler a pu regarder fasciné l'incendie du Reichstag ?
Alors, je vais vous faire une confidence, mais je n'en sais rien, mais à un point que vous n'imaginez pas, cher Yannick, comment voulez-vous que je le sache ? Vous savez, de cette époque sont venues beaucoup de légendes, beaucoup de récits, plus ou moins documentés. N'oublions pas qu'à cette époque, il n'y avait pas d'archives. C'est très important de garder en tête que les archives, au sens moderne du terme, c'est les archives qui font que les historiens peuvent travailler.
Même dans les millions de kilomètres d'archives au Vatican, il y a des choses très, très anciennes.
Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'archives au Vatican. Il n'y avait déjà pas de Vatican, ou quasiment. Hein. Le Vatican, il est né lorsque l'empereur Constantin, donc au IVe siècle, on est déjà au IVe siècle, l'empereur Constantin va accepter que ces chrétiens, finalement, jouent un rôle normal dans la cité, enfin, qu'ils soient plus persécutés. Et l'empereur Constantin leur accorde, justement, à l'endroit où Saint-Pierre est mort, sous Néron, une basilique, qu'on va évidemment assez vite appeler la basilique Saint-Pierre, et qui va être l'ancêtre de la basilique Saint-Pierre d'aujourd'hui. Quand vous allez à Rome aujourd'hui, vous arrivez place Saint-Pierre, vous avez cette extraordinaire façade, vous avez le palais apostolique à votre droite, vous avez l'immeuble du Saint-Office à votre gauche, et cette basilique Saint-Pierre, elle est là où l'histoire nous dit que Saint-Pierre est mort. Il faut toujours garder cette idée. Pourquoi le Vatican ? Pourquoi Rome est la capitale des chrétiens, etc. ? Parce que Saint-Pierre y a été crucifié. C'est ça la tradition chrétienne. Alors, évidemment, à l'époque, alors c'était à quelques centaines de mètres, hein, c'était à 300 mètres de là, faut pas chipoter. D'ailleurs, les sépultures, sépultures de Saint-Pierre et d'autres personnes, étaient sous la basilique d'aujourd'hui. Donc on est quand même exactement là où ça s'est passé. Alors, à l'époque, Constantin, qui enfin arrête de persécuter les chrétiens, offre aux chrétiens cette basilique et puis d'autres lieux dans Rome, dont Saint-Jean de Latran, qui est aujourd'hui la cathédrale de l'évêque de Rome, donc la cathédrale du pape en tant qu'évêque de Rome. Quand on visite Rome, on voit bien le Vatican, tout le monde sait très bien où c'est, et un peu plus loin, dans la grande capitale romaine, il y a la basilique Saint-Jean de Latran, qui est aussi un lieu de visite extrêmement connu. Tous ces endroits qui sont encore aujourd'hui très appréciés de tous les touristes, c'était des endroits que Constantin a offert aux chrétiens de l'époque. Donc voilà pourquoi ça se passe à Rome. Et voilà pourquoi c'est resté à Rome.
Et Pierre, donc, était surnommé, enfin, son nom au départ, c'est Képhas.
Oui, c'est toute l'histoire de Pierre. Alors,
qui est un simple pêcheur, homme simple, assez rude d'ailleurs, et qui est capable de violence aussi.
Pierre, vous savez, alors vous rappelez les apôtres, évidemment, Jésus va choisir 12 hommes qu'on va appeler les apôtres ou les disciples, et ces 12 hommes vont le suivre pendant 3 ans, pendant tout son enseignement. Ça, je ne vous refais pas l'histoire de l'Évangile. Mais le premier de ces hommes, effectivement, c'est un pêcheur qui est à côté de Capharnaüm. Quand vous visitez aujourd'hui l'État d'Israël, vous allez dans le nord, à Capharnaüm, vous visitez le lac de Galilée, c'est là que ça se passe. Longez le lac de Galilée, vous tombez sur 2 ou 3 villages, dont un où on vous fait visiter la maison de Pierre. Pierre était né là, dans une famille de pêcheurs, lui-même était pêcheur, et soyons tout à fait clairs, c'était pas un intello, c'était un pêcheur. Il n'avait aucune connaissance théologique, il n'avait aucune connaissance intellectuelle, c'était un type sympa, brave, courageux, généreux, et c'était un meneur d'hommes. C'était un chef de bande, au fond, c'était le chef de l'équipe, quoi. Et si Jésus l'a choisi, c'est justement parce que c'était un animateur, c'était un gars qui croyait, et qui, vous l'avez dit, de temps en temps, probablement a fait aussi quelques bêtises. Quand il voit Jésus marcher sur l'eau, il croit qu'il va marcher sur l'eau aussi. Alors il dit, oui, mais comment je peux faire, Seigneur? C'est vrai, hop, il coule. Bah, évidemment, alors Jésus, vous vous rappelez, il dit, voilà. Homme de peu de foi, etc. C'est tout un passé, c'est toute une culture qui vient autour de ce personnage. Quand un centurion veut s'en prendre à Jésus le soir de la Passion, il sort son épée, il lui coupe l'oreille quand même.
C'est bien donc rendu dans la bande dessinée. Ah, oui, on voit d'ailleurs l'oreille au sol en sanglanté.
Voilà, le dessinateur est génial. Il s'appelle Marc Jailloux, il est formidable. Et c'est toutes ces histoires-là qui font de Pierre un personnage extrêmement attachant. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas du tout un type, un hiérarque quelconque, une espèce de gourou. Pas du tout. C'est un meneur d'hommes. C'est le chef des apôtres.
Et il n'est pas parfait, en fait.
Et il n'est pas du tout parfait. Et d'ailleurs, le premier saint, donc Saint-Pierre, n'est pas parfait. C'est très important pour les catholiques de dire, mais un saint, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Ça peut être chacun d'entre nous. Ça, c'est tout le dogme chrétien, évidemment. Et Saint-Pierre est cet exemple-là du gars, du brave type, qui croit en Jésus, qui croit en ce qu'il dit, qui est prêt à se bagarrer pour lui, qui, effectivement, qui n'est pas parfait.
Et donc, le tombeau de Saint-Pierre se trouve bien dans ce qu'on appelle les grottes vaticanes, Bernard.
Oui.
Parce qu'alors, en fait, il y a un pape qui a eu un culot dingue, c'est en 1939. C'est le pape qui a voulu que l'on cherche les restes de Saint-Pierre.
Absolument. C'était Pie XII. Pie XII qui venait d'être élu. On est en mars 1939. Et Pie XII était un homme de grande culture et s'était toujours demandé déjà, mais est-ce que le tombeau de Saint-Pierre est bien là? Et il va profiter, justement, quand il arrive, il est élu, et il va profiter de l'enterrement de Pie XI, le pape d'avant, qui vient de mourir, pour fouiller un petit peu. Et ses conseillers lui disent, on a trouvé un trou, on a creusé, des trucs bizarres. Et Pie XII dit, allez-y, en grand secret, évidemment. Pourquoi en grand secret? C'est parce qu'imaginez qu'il n'ait rien trouvé. Là, l'Église aurait été quand même assez mal, parce que c'est quand même sur l'idée que le tombeau de Saint-Pierre est là que repose le Vatican. Et donc, Pie XII était quand même assez gonflé. Alors, il dit, en grand secret, vous allez fouiller. Ces fouilles vont durer 10 ans, 15 ans. Et c'est très longtemps après, le pape Paul VI, donc très longtemps après, au début des années 60, qui va dire, ben voilà, ces fouilles ont révélé beaucoup de choses. On peut considérer que, oui, le tombeau de Saint-Pierre est bien là. Et quand vous allez aujourd'hui à Rome, vous entrez dans la basilique, vous avez devant vous ce qu'on appelle la confession de Saint-Pierre. C'est l'endroit où il y a le tombeau en dessous. Alors, on lit aussi, est-ce que c'est Saint-Pierre qui est dedans? Alors, le pape dit, tout porte à croire que oui. Bon, les historiens ont le droit de mettre en doute cette certitude, parce que honnêtement, au bout de 2000 ans, où il y a eu des invasions, des vols, des trucs et des machins, est-ce que vraiment les ossements correspondent
à ceux de Pierre? Ou des trafics de reliques aussi.
Voilà. Alors, rien ne permet non plus de mettre en doute ce que les historiens ont trouvé, parce qu'ils ont cherché des tas de trucs autour de ces petits ossements, que c'était un homme de telle taille, de tel âge, etc. Ça correspond. Mais encore une fois, en 2000 ans, il a pu quand même se passer pas mal de choses.
Et puis rappelons que Pierre, c'est lui qui a prononcé la première homélie de l'histoire du christianisme. Et donc, c'est le premier pape, c'est Saint-Pierre. C'est
lui. Oui, rappelons toujours cette chose, c'est qu'un pape, c'est l'évêque de Rome. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'évêque de Rome. Et Saint-Pierre, c'était le premier chef de la communauté chrétienne.
Désigné par le Christ.
Voilà, désigné par le Christ, puisque vous vous rappelez cette phrase très importante, parce qu'elle fonde beaucoup de l'histoire du christianisme. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Honnêtement, si Jésus n'avait pas dit ça, ou si Saint Matthieu n'avait pas rapporté ce propos, l'histoire de l'Église aurait été différente. Mais cette phrase fonde, en quelque sorte, les débuts de l'Église et font de Pierre, évêque de Rome, donc bientôt pape, l'autorité de l'Église repose sur le pape.
C'est Bernard Lecomte qui nous accompagne pour mettre en valeur les quatre BD dont il a été conseiller historique. Saint-Pierre, dont une menace pour l'Empire romain, Léon le Grand, Alexandre VI, on va en parler un petit peu après la pause musicale, et puis bien sûr on parlera aussi de Jean-Paul II. Mais alors là, Jean-Paul II, on pourrait faire une série d'émissions de 10 heures, Bernard, n'est-ce pas? On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité, toujours sur Radion.
Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, 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 non. Non, 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 je ne veux pas boire un verre. Non, non, non. quoi ça sert de faire un tour? Non, je ne veux pas me défaire de ce si bel enfer qui commence à me plaire. Je ne veux pas quitter mon salon. Non, 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 non.
Vous êtes en quête d'idées, de cadeaux de Noël, eh bien écoutez, je crois que vous pouvez vous rendre en librairie et offrir une ou même les quatre bandes dessinées dont nous parlons aujourd'hui avec Bernard Lecomte, qui a été le conseiller historique de ces bandes dessinées disponibles aux éditions Glénat et éditions du Cerf et recommandées par Historia, s'il vous plaît. Donc on a une bande dessinée sur Saint-Pierre, Léon le Grand, Alexandre VI et Jean-Paul II. Alexandre VI, alors là, Bernard, on rentre dans un univers de la papauté comme on ne le soupçonnerait pas. Parce qu'en fait, on apprend qu'il y a des papes qui ont eu des enfants, qui avaient des maîtresses. Mon Dieu, que d'histoire. Le vrai du faux dans tout cela, Bernard?
Alors, d'abord, le vrai, c'est qu'en 2000 ans d'histoire, bah, on ne peut pas dire que l'Église ait été toujours fréquentable. Il y a eu de ces chefs qui étaient, on l'a dit tout à l'heure, des chefs de guerre, qui étaient beaucoup plus chefs de guerre que pasteurs ou chefs spirituels. Et puis, il y a eu, sur le plan moral, quelques périodes dans l'histoire de l'Église où ça a quand même complètement dérivé. Il y a eu une période, par exemple, au Xe siècle, donc à peu près à mi-chemin dans l'histoire, que les historiens ont appelé, tenez-vous bien, la pornocratie pontificale. Vous imaginez ce que ça devait être à l'époque. Bon, pourquoi? C'est parce que, justement, ces papes, quelquefois, n'étaient pas des saints, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, l'époque voulait ça. Ils avaient des familles, etc. Et les Borgias, alors les Borgias, donc, on est au XVe siècle. Les Borgias, c'est d'abord une famille d'origine espagnole, bien sûr, Borgia, et qui va devenir Borgia en italien. Et ces Borgias, il va y avoir plusieurs papes Borgia, ils sont à une époque où les papes, en effet, ont des enfants. Alors, même si on les appelle d'ailleurs quelquefois des neveux, mais enfin, on sait bien, voilà. Celui-là, Alexandre VI, carrément, il a une maîtresse, il a eu une femme, et il a trois enfants officiels, et sans doute cinq ou six au total.
Deux fils et une fille.
Voilà. Alors, c'est l'époque qui veut ça. Pourquoi ça? Les historiens aussi sont intéressants, il faut les écouter. Ils disent parce qu'à l'époque, comme la papauté, c'était quelque chose de très politique, le pouvoir était assis sur les réseaux familiaux. C'est pour ça qu'un pape avait besoin d'avoir des neveux, des cousins, des enfants, etc., à qui il donnait, comme par hasard, tel territoire, tel duché, tel comté, parce qu'il fallait qu'il assoie son pouvoir. Et c'est pour ça que les papes de l'époque avaient des enfants. Alors, dans le cas d'Alexandre, évidemment, ça va un peu loin. Alexandre Borgia, c'est quand même un summum.
Parce qu'Alexandre VI, déjà, c'est le neveu du pape Calixte III. Donc, il y a une cooptation, on se fait des cadeaux. Alexandre VI est devenu cardinal à l'âge de 25 ans.
Voilà. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, je viens de vous le dire, les cardinaux avaient des terres. Ils étaient engagés sur un plan politique. Et donc, un cardinal, c'était un appui très important pour le pouvoir du chef de l'État du Vatican, qui était évidemment le pape. Et c'est pour ça d'ailleurs que toute l'histoire des Borgia est complètement quadrillée de problèmes territoriaux, de guerres, de possessions, d'héritages. C'est pour ça par exemple que le pape Alexandre VI, donc, va marier trois fois sa fille Lucrèce. C'est pour ça que César va jalouser complètement son frère parce que son frère a des territoires, alors que lui, non, on lui demande de gérer plutôt la cité du Vatican, son cardinalat, etc. Il ne veut pas être prêtre, César. Tous ces détails-là, alors, que rend magnifiquement l'album, parce que là, la scénariste et le dessinateur sont d'ailleurs de mari et femme, c'est des gens extrêmement sympathiques, ils habitent en Toscane, et ils ont très, très, très bien rendu cette atmosphère. Et ils se sont appuyés sur ce qui fait ce qu'on appelle la légende noire des Borgia. C'est quoi la légende noire ? C'est tout ce que des écrivains, des scénaristes, des réalisateurs ont inventé ou raconté sur ce pape qui avait femme et enfant. Le premier d'entre eux étant évidemment Victor Hugo. Je pense que sans Victor Hugo, on ne parlerait pas des Borgia aujourd'hui. Mais Victor Hugo avait fait scandale en racontant justement Lucrèce Borgia, la fille, avec des choses horribles, etc. Mais c'est un régal, honnêtement. L'histoire est l'histoire. Mais enfin, quand on peut rêver, quand on romance, jusqu'à faire des films ou des séries télé. Rappelez-vous, récemment, une formidable série télévisée qui avait montré les Borgia, pas exactement sous leur meilleur jour, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand vous écrivez une série télévisée, vous n'allez pas non plus éliminer, rogner, afin de faire comme si Alexandre VI était un saint. Ça, c'est pas possible. Donc, évidemment que les Borgia suscitent à la fois quelques ricanements, quelques sourires, quelques fantasmes, et bien entendu aussi quelques regrets au sein du monde catholique qui se serait peut-être passé d'avoir ce genre de personnage dans son histoire.
Alors cet Alexandre VI, il a trois passions, les femmes, le luxe et le pouvoir. Et dans la bande dessinée, par exemple, Bernard, il y a une vignette que je trouve délicieuse. Le pape regagne sa chambre, sur le lit il y a une femme et elle étale sur sa poitrine, entre ses deux seins, de la poudre de cacao et elle lui demande de la déguster et elle lui dit « c'est de la poudre de cacao ». Alors, c'est pas naïf parce que effectivement, ce pape Alexandre VI a eu à arbitrer les volontés de conquête, notamment du Nouveau Monde, entre le Portugal et l'Espagne. Voilà. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait un partage.
Absolument. C'est très important ce que vous dites, parce que s'il y avait eu que les histoires un peu scabreuses d'un pape avec sa maîtresse et ses enfants, ma foi, bon,
on s'en serait tout de même contenté.
Oui, c'est ça. Ça serait un peu marginal. Mais ce pape, le pape Alexandre VI Borgia, c'est le principal pape, ou un des principaux papes, disons, de cette époque, qui est la Renaissance. Sans les papes Borgia, sans cette époque des Borgia, il n'y a pas de Renaissance. Or, la Renaissance est le plus grand tournant dans l'histoire culturelle, artistique et intellectuelle de notre histoire à nous. La Renaissance, c'est fondamental. Et dans ce temps de la Renaissance, il y a l'ouverture au reste du monde, symbolisée bien sûr en 1492 par Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. Tout le monde a appris ça aussi dans les manuels scolaires. On se rappelle, Colomb découvre l'Amérique. Quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, en réalité, il incarne les grandes découvertes de l'époque. Et ces grandes découvertes vont effectivement donner aux puissances européennes, à commencer par le roi d'Espagne et le roi du Portugal, parce qu'ils se partagent les marines. Ce sont les peuples marins qui vont découvrir le reste du monde. Et il va y avoir en effet un sujet très important à trancher, c'est qu'une fois que les Espagnols, les Portugais sont allés coloniser toute l'Amérique du Sud, qu'est-ce qu'on fait de leur colonie ? Comment ça va fonctionner ? Et c'est au pape qu'on va demander de trancher, en effet. Les autorités espagnoles, portugaises, tout ça, bon, on se tourne vers le pape et on lui dit comment on fait. Et c'est le pape qui va tracer une ligne qui va aujourd'hui départager les conquêtes espagnoles et les conquêtes portugaises. C'est pour ça aujourd'hui, c'est grâce à Alexandre VI Borgia, si je peux me permettre ce raccourci un peu audacieux, qu'on parle portugais au Brésil et espagnol au Chili. C'est à cause de ce pape.
Donc, la bande dessinée Alexandre VI, Le règne des Borgia, aux éditions Glénat et du Sèvres. On marque une nouvelle et dernière petite pause musicale. Et puis ensuite, Bernard, on va tout de même, bien sûr, dire un mot de Jean-Paul II, incontournable. À tout de suite. Merci d'être avec nous en cette fin de matinée sur Radion, de surcroît avec notre invité Bernard Lecomte, qui a été le conseiller historique de cette série de bandes dessinées intitulée « Un pape dans l'histoire ». Alors, on a parlé déjà de Saint-Pierre, on a parlé de Saint-Léon, Léon le Grand, qui affronta Attila. On a évoqué Alexandre VI, terrible pape, assez... à la fois attirant et repoussant, enfin, quelque chose d'assez duel chez cet homme. Jean-Paul II, c'est le titre d'un des albums, N'ayez pas peur. Alors Bernard, Jean-Paul II a régné plus d'un quart de siècle en tant que pape, charge très lourde. On sait aussi que ça a été un des premiers papes qui n'était pas, disons, de nationalité italienne. Et en plus, il a énormément bouleversé de choses. Je vous laisse la parole, Bernard, pour faire synthétique et efficace, comme vous savez si bien le faire.
Non, la grande difficulté, c'était de ne faire qu'un album. Parce que Jean-Paul II, vous l'avez dit, 27 ans de règne. En 27 ans, vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé. Rappelez-vous simplement trois petites choses. Le rapprochement avec les Juifs, c'est quand même fondamental dans l'histoire, ce rapprochement des chrétiens avec les Juifs. Jean-Paul II a été l'artisan de ça pendant des années. Deuxièmement, la fin du communisme. Dieu sait que ce pape polonais a eu une importance auprès des Polonais et des autres catholiques de la zone, les Slovaques, les Ukrainiens, les Lituaniens, etc. Là aussi, rien que ça, ça pouvait faire un album. Et puis, c'est le pape qui a réconcilié l'Église avec la jeunesse du monde. Les fameux JMJ, les réunions incroyables des jeunes du monde autour du pape qui se sont prolongées sous Benoît XVI, sous le pape François. C'est Jean-Paul II qui a inventé tout ça. Donc, c'était très compliqué de raconter tout ça. Et le scénariste a choisi, a fait un formidable choix. Il y a eu un attentat que tout le monde a encore en tête, où Jean-Paul II a failli casser sa pipe. Hein. Il a été...
C'est le 13 mai 1981.
Voilà, à 17h17. Cet attentat, c'est le prétexte pour le scénariste et le dessinateur pour montrer ce pape, non pas dans sa magnificence, dans ses grands voyages, dans sa puissance. Non, au contraire, le pape très humain, parce que sur un lit d'hôpital, peut-être qu'il va mourir. Et le scénariste a rebâti tout le pontificat de Jean-Paul II à partir de ce moment crucial, très humain. Et le dessinateur a su accompagner cette humanisation. Moi, je dois dire, j'avais un peu peur, pour être clair, hein, parce que Jean-Paul II, moi, j'ai passé des années à travailler dessus. J'ai fait sa biographie, etc. Donc, j'étais quand même un peu inquiet. Quand j'ai vu le travail du dessinateur, j'étais plus inquiet du tout. Il a réussi à humaniser le bonhomme. Jean-Paul II, c'est aussi Karol Wojtyła, le jeune abbé polonais, le jeune évêque, brillantissime, enfin, dans un pays communiste, qui se bat avec la police de son époque, etc.
Et qui a souffert, en fait, déjà... Des persécutions, des violences de l'Allemagne qui occupait la Pologne et qui a aussi vécu très sévèrement le communisme.
Voilà, c'est un homme qui, quand on lui parlait de totalitarisme, savait de quoi il parlait, quoi. Hein, il avait connu à la fois la guerre, l'occupation nazie, 30 ans de communisme, et puis d'autres horreurs. Il avait connu aussi l'antisémitisme, par exemple, puisqu'il était, lui, à 80 km d'Auschwitz. Donc il connaît tout ça. Quand il devient pape en 1978... Il connaît tout ça. Et c'est pour ça qu'il va devenir ce pape des droits de l'homme, ce pape très... il ne faut jamais parler de croisade dans ces cas-là, mais enfin, qui va quand même lancer, n'ayez pas peur, qui va lancer ça à tous les gens de l'Est qui vont finir par retrouver confiance en eux et qui vont finir par contribuer sérieusement à la chute du mur de Berlin. Donc, tout ça, c'est quand même, au départ, c'est un homme. Et l'album dont nous parlons, là, l'album... est magnifiquement réussi parce que, justement, le dessinateur et le scénariste ont humanisé tout ça. Ils ont montré que c'était bien un bonhomme avec son passé, son histoire, ses souffrances. Il perd sa mère très tôt, il perd son grand frère, etc. Et voilà ce qui va être le grand pape Jean-Paul II. C'est cet homme-là qui a failli mourir le 13 mai 1981.
Et Alexandre Solzhenitsyn, au micro de la BBC, avait dit « Ce pape est un don du ciel ».
Oui, et Solzhenitsyn, pourtant, croyez-moi, orthodoxe, russe, assez nationaliste, il n'avait aucune sympathie pour le pape de Rome. Hein. Mais les grands hommes se retrouvent toujours au carrefour de l'histoire. Et Solzhenitsyn, en effet, avait été très heureux de l'élection de ce pape polonais qui, lui, savait ce qui se passait derrière le rideau de fer.
Merci Bernard d'avoir été avec nous en cette fin de matinée à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Et puis bien sûr, allez feuilleter ces bandes dessinées, achetez-les et faites-en cadeau. Je crois que c'est un très 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 joli, utile et intelligent cadeau. Donc Saint-Pierre aux éditions Glénat, toujours dans la même collection, donc Un pape dans l'histoire, Léon le Grand, Alexandre VI, Le règne des Borgia et Jean-Paul II, N'ayez pas peur. Et puis bien sûr, il y a d'autres albums viendront.
Il y a une trentaine d'albums au total qui sont prévus. Deux doivent paraître chaque année à Pâques et deux à Noël. Donc d'ores et déjà, cher Yannick, je vous donne rendez-vous en avril prochain pour les deux prochains albums.
Le rendez-vous est noté en tout cas. Merci Bernard Lecomte d'avoir été avec nous aujourd'hui. Prochain rendez-vous de Wagon Livre, samedi 21 décembre à 11h. Je recevrai Robert Auclair pour Avalon en fête. Robert Auclair, qui est originaire d'Avalon, qui est un ancien architecte d'intérieur, a une immense collection de cartes postales et de photographies du vieil Avalon. Et notamment, il les fait paraître très souvent dans des ouvrages qu'il livre aux éditions Sutton, des photographies souvent inédites et remises dans leur contexte, et qui nous livre un témoignage original sur l'histoire d'Avalon. La semaine prochaine, donc avec lui, nous reviendrons sur les grandes fêtes marquantes de la ville d'Avalon entre 1893 jusque en fait les années 1933-34, commémorations, cérémonies religieuses, concours musicaux, cavalcades qui réunissaient donc bien sûr les habitants et les visiteurs dans des rues pavoisées. Nous en parlerons avec lui. C'est donc Robert Auclair, notre prochain invité pour Avalon en fête, samedi prochain à 11h sur Radion. Merci d'avoir été avec nous. Excellent congé de fin de semaine. Au revoir et à la semaine prochaine.